Bonsoir à toutes et à tous, il est 21h ici à Paris. Bienvenue dans votre journal en français facile sur RFI.
Anne Verdaguet.
Et pour m'accompagner durant ce journal, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Anne, bonsoir à toutes et à tous.
À la une en France, la fronde contre la loi dite de sécurité globale. Mobilisation dans la rue aujourd'hui pour réclamer le retrait, notamment de l'article 24 qui pénalise la diffusion malveillante d'images de policiers dans l'exercice de leurs fonctions.
Un G20 virtuel s'est ouvert aujourd'hui sous la présidence de l'Arabie Saoudite. La réunion est consacrée en grande partie à la gestion de la crise sanitaire, mais des voix s'élèvent pour dénoncer les atteintes aux droits humains par le pays hôte.
Et en Afghanistan, l'État islamique revendique les tirs de roquettes aujourd'hui sur le centre de Kaboul. Il y a au moins 8 morts.
Le journal.
En français facile.
En France, la forte mobilisation contre une proposition de loi qui encadre la diffusion de l'image des policiers.
Oui, c'est l'article 24 de la loi dite de sécurité globale qui a été adoptée hier par l'Assemblée nationale, qui fait toujours polémique. Donc le ministre français de l'Intérieur l'a remanié en dernière minute, mais les défenseurs des droits sont descendus dans la rue aujourd'hui un peu partout en France. Ils étaient des milliers à Paris, à Lille, à Marseille ou encore à Rennes. À Paris, les forces de l'ordre avaient bouclé tout le quartier du Trocadéro, ce qui n'a pas empêché les manifestants d'y affluer. Et beaucoup de jeunes étaient présents, des lycéens et des étudiants qui étaient venus exprimer leur inquiétude. Écoutez Jade, qui est étudiante en deuxième année de droit.
Moi, personnellement, ce qui me fait peur, c'est qu'on étudie qu'on est dans un état de droit et qu'on a des droits, en fait. Et là, on est en train de revenir à un état policier où on est surveillé en permanence. Et on a même, en fait, on a la seule prérogative qu'on avait, c'était pouvoir les surveiller en retour.
Ouais.
Et là, on l'a plus. Donc, on fait quoi maintenant? C'est ça le problème, c'est on fait quoi maintenant? Et l'affaire Benalla, c'était ça. Si aujourd'hui s'il y avait eu cette loi à l'époque, il y a énormément de choses qui seraient jamais sorties. Et c'est plus que problématique parce que ça fait grand bruit. À chaque fois qu'il y a des bavures policières, ça fait grand bruit et ça permet de rassembler les gens et de, encore une fois, dire qu'on n'est pas d'accord. Sauf que si on peut plus les voir, comment on fait? Et puis le contexte, il est juste parfait pour passer ce genre de loi. On est confiné, ça fait des mois que les Français n'en peuvent plus. On dit oui à tout. Toutes les mesures, on dit oui. Et là, la mesure, on dit oui encore. Enfin, pas les gens ici, mais les gens disent oui de manière générale.
Jade au micro de Christine Zibert.
Une réunion du G20 inédite s'est ouverte aujourd'hui.
Oui, un sommet virtuel pour cause de crise sanitaire, présidé par l'Arabie Saoudite, où il sera justement question de la lutte contre le Covid-19. Pour cette première journée, les dirigeants du G20 ont appelé à la solidarité, en particulier pour l'accès aux vaccins. C'est la première fois que le Royaume saoudien accueille un tel sommet, alors que ce pays, proche allié des Occidentaux, est régulièrement critiqué pour la guerre au Yémen ou pour l'assassinat du journaliste dissident Jamal Khashoggi il y a 2 ans. L'Arabie Saoudite a aussi emprisonné des opposants et des militantes féministes, notamment Loujain Al-Atloul, 31 ans, détenue depuis le printemps 2018. Écoutez Lina Al-Atloul, la sœur de la féministe emprisonnée.
Loujain était une activiste pour les droits de la femme en Arabie Saoudite. Son premier combat était pour les droits des femmes de conduire en Arabie Saoudite, chose qui a été octroyée. Et donc Loujain a gagné ce premier combat. Elle était également contre le système de tutelle masculine en Arabie Saoudite, qui en fait considère les femmes comme mineures jusqu'à la fin de leur vie. Donc pour toute décision importante, les femmes doivent avoir l'accord de leur gardien, comme on appelle ça, donc le père, et puis le mari et parfois même le fils. Depuis la montée au pouvoir de MBS, notre nouveau prince héritier, l'Arabie Saoudite est vraiment un état policier dans lequel règne l'arbitraire. Je pense que l'Arabie Saoudite met en avant les réformes qui font avancer les droits des femmes, les droits humains de façon générale, mais emprisonne les activistes, les personnes qui ont vraiment milité pour. Le message est clair depuis MBS, il ne faut rien demander, le peuple n'a plus de voix. Et ceux qui osent ou qui oseraient revendiquer quoi que ce soit leur destin est celui de Lou Jane et ils seront emprisonnés et même tués parfois.
Des propos recueillis par Nicolas Falaise. Lou Jane Alatloul a annoncé fin octobre qu'elle entamait une grève de la faim en prison. Depuis, sa famille n'a plus de nouvelles.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo en visite au Qatar pour donner un coup de pouce aux négociations entre les talibans et le gouvernement.
Des négociations qui ont commencé le 12 septembre dernier à Doha, mais les points d'achoppement sont nombreux. Sur place, la violence se poursuit. Au moins 8 personnes ont été tuées, dont 6 militaires aujourd'hui par des tirs de roquettes sur Kaboul. Près de la zone verte, l'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique.
Au Pakistan maintenant, Anne, des foules immenses rassemblées à Lahore pour les funérailles du chef du parti islamiste radical, le TLP.
L'homme était connu pour sa rhétorique incendiaire contre les caricatures de Mahomet publiées en France par Charlie Hebdo et il était à l'origine des manifestations anti-françaises souvent houleuses qui ont agité le Pakistan depuis septembre dernier. À Islamabad, Sonia Ghezali.
Une foule immense était rassemblée autour du minaret Minar et Iqbal de Lahore pour assister aux funérailles de leur chef spirituel Khadim Rizvi. Certains participants étaient juchés sur des maisonnées à toit bas. Toute la foule s'est mise en rang serré pour effectuer la prière funéraire. Khadim Rizvi est mort il y a 2 jours, à l'âge de 54 ans, après une forte fièvre et des difficultés respiratoires. Les raisons de sa mort sont inconnues et aucun test pour le Covid-19 n'a été effectué. En fauteuil roulant, depuis un accident de la route il y a plusieurs années, il galvanisait les foules sur les questions de blasphème. Il était connu pour ses discours ponctués de mots vulgaires et ses provocations. Le TLP est à l'origine des manifestations violentes qui ont secoué le Pakistan en 2018 après l'acquittement de la chrétienne Asia Bibi, accusée de blasphème par des femmes de son village. Le parti a d'ailleurs été créé pour demander la libération de l'assassin du gouverneur du Punjab qui avait appelé à réformer la loi sur le blasphème. Le parti perdra-t-il de son pouvoir de mobilisation avec une autre personnalité à sa tête? C'est la question que se posent de nombreux observateurs. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI.
Au Burkina Faso, à la veille de l'élection présidentielle, l'opposition dénonce une fraude massive.
L'opposition burkinabé qui menace d'ores et déjà de ne pas reconnaître les résultats de cette élection, qu'elle estime déjà entachée d'irrégularité, parlant d'une opération orchestrée par le pouvoir pour légitimer une victoire au premier tour du président Kaboré, candidat à sa réélection. Une élection présidentielle, mais aussi législative, les bureaux de vote seront ouverts de 6h à 18h, heure locale.
En Israël, la levée des restrictions imposées à l'ex-espion Jonathan Pollard.
Il était analyste des services de renseignement de la marine américaine et il avait fourni pendant des années des informations sensibles à Israël avant de tenter de trouver refuge à l'ambassade israélienne de Washington en 1987. Le récit de Michel Paul à Jérusalem.
Condamné à la prison à perpétuité, en fait, Jonathan Pollard a passé 30 ans derrière les barreaux et 5 ans en liberté provisoire avec restrictions sur ses déplacements. La peine la plus lourde jamais infligée aux États-Unis pour espionnage au profit d'une puissance amie. Désormais donc, l'ex-espion américano-israélien est un homme tout à fait libre, mais pendant longtemps, l'affaire Pollard a provoqué des tensions entre les responsables israéliens et l'administration américaine, et aussi des divergences de vues entre le judaïsme américain et Israël, où il est considéré comme un héros national. Selon ses avocats, Jonathan Pollard peut à présent se rendre où il le désire, et dans son entourage, on indique qu'il envisage de s'installer en Israël, où sa femme atteinte du cancer pourrait recevoir des soins. Il y a tout juste un an, Pollard avait lancé un appel public au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lui demandant d'intervenir auprès de Donald Trump pour que sa peine soit commuée. Dans une interview à des médias israéliens, Alan Dershowitz, son ancien défenseur, suggère à Israël de garder le profil bas sur le dénouement de cette affaire. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et on termine avec le sport, Anne.
Oui, un mot de foot avec la 11e journée de Ligue 1. Saint-Étienne concède ce samedi sa 7e défaite consécutive d'affilée face à Brest. Le score 4-1. C'est la fin de notre journal en français facile. Merci Sylvie Berruet d'avoir
plaisir,
été à mes côtés. Excellente soirée à l'écoute de RFI. Il est 21h10 à Paris, 20h10 en temps universel.